La première,
podcast. Un jour dans l'histoire, Laurent de Hausset.
Nous sommes le 8 juin 1903 à Paris. Nous allons assister à un événement dont l'annonce a fait grand bruit. Il s'agit de la vente des fresques de la villa romaine de Bosco Reale. C'est une villa située près de Pompéi et sinistrée, ensevelie sous les cendres lors de l'éruption du Vésuve en 79. Les antiquaires napolitains chargés de la vente, Cesare et Ercole Canessa, ainsi que leur correspondant parisien Arthur Sambon, ont assuré au catalogue illustré une formidable diffusion. Les plus grands institutions sont présentes, le Louvre, le Metropolitan Museum de New York, Amsterdam, ainsi que la fine fleur des collectionneurs. Et parmi ceux-ci, Raoul Waroquet, riche industriel belge, propriétaire du château de Marimont, bien décidé à ne pas repartir bredouille, et il ne va pas faire le déplacement pour rien, on va le voir. C'est sur les traces de cette villa romaine de Bosco Reale que nous vous emmenons aujourd'hui.
Il se passe quelque chose dans la montagne. Il se passe quelque chose sur le mont Vésuve.
Voilà, et comme décor aujourd'hui, décor sonore, on aura cette éruption du Vésuve en 79, mais on va surtout se concentrer sur les vestiges après ce sinistre. Avec nous pour évoquer cette villa de Bosco Reale, Annie Verbanck-Pierrard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur de la section grec-rome au musée royal de Marimont et vous avez dirigé avec Alix Barbet un énorme ouvrage qui s'appelle La villa romaine de Bosco Reale et ses fresques. Alors, situé donc sur les pentes du Vésuve au nord de Pompéi, ce territoire de l'actuelle localité de Bosco Reale a toujours été réputé dans l'Antiquité pour sa fertilité. Depuis quand on peut y voir des habitants? Il est habité depuis quand ce territoire?
Ah, la région au pied du Vésuve étant fertile dans l'Antiquité est habitée depuis fort longtemps, bien entendu. Ouais. Toute la Campanie peut être occupée depuis l'époque archaïque, même l'époque grecque archaïque, et de nombreuses civilisations italiques notamment se sont développées dans tout le sud de l'Italie, y compris à Pompéi. Et Pompéi elle-même est une cité qui a une certaine autonomie et qui résistera d'ailleurs à l'envahisseur romain, tant et si bien qu'en 80 avant notre ère, Sylla, au cours des guerres civiles, s'établit de façon assez brutale, assez violente, s'établit dans la région de Pompéi, conquiert Pompéi en quelque sorte et en fait une nouvelle colonie romaine dans laquelle vont venir s'implanter des vétérans de ces armées. Et on va redistribuer des terres, notamment des terres sur les flancs du Vésuve, sur lesquelles vont être construites de nouvelles villas.
Et on construit, on cultive notamment la vigne, l'olivier, les céréales. Alors cette villa de Bosco Reale, que l'on connaît également sous le nom de la villa de Publius Fannius Sinistor, qui est ce Publius?
Alors, Publius Fannius Sinistor est connu par l'inscription qu'il a laissée sur une urne en bronze, qui est une mesure, en réalité une mesure à liquide. Et c'est sans doute un des derniers propriétaires, ou du moins occupants de la villa, puisqu'on a retrouvé son nom sur cette urne, retrouvée dans les cendres de la villa. Et le nom, au fait, est relativement peu connu. On n'a pas vraiment identifié ce personnage, disons simplement que son surnom de Sinistor, qui est un surnom grec, veut dire le témoin, ce qui pour nous est une bonne opportunité, le témoin de cette longue histoire de la villa. Et par ailleurs, il est certain que ce n'est pas le commanditaire de la villa, c'est pas lui qui a fait construire la villa, puisque en 79, après Jésus-Christ, nous sommes près de 120 ans finalement après la construction même de la villa et sa décoration de fresques. Donc il y a déjà beaucoup de temps qui s'est écoulé.
C'est quoi? C'est une propriété seigneuriale, campagnarde? Qu'est-ce qu'on sait de la fonction de cette villa?
D'après le plan que nous avons pu reconstituer, effectivement, et d'après le plan de dressé par le rapport de fouille de Monsieur Barnabé, d'après ce plan, il est clair que nous avons affaire à une villa de type rustica, c'est-à-dire une seconde résidence, en quelque sorte, vraisemblablement, d'une famille riche et bien nantie, puisque la villa est assez luxueuse, du moins dans certaines parties, nous y reviendrons en étudiant le plan, peut-être. Et par ailleurs, c'est une villa qui, non seulement est une villa de résidence, mais également une villa rustica, c'est-à-dire une villa de rapport qui vit quand même sur son fonds agricole, au fait, parce qu'il y a un pressoir à huile, à vin, on voit qu'on pouvait entreposer des denrées, on voit qu'il y avait effectivement aussi des outils agricoles, etc. Donc c'est une villa qui peut s'assurer une certaine autonomie, sans doute de subsistance pour ceux qui viennent passer là, peut-être un bel été en compagnie.
Et dans quelques secondes, Dany Everbank-Pirard, on va démarrer la visite de cette villa avec vous.
Un jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30 sur la première.
Tu ne trouves pas que ça suffit? Les voleurs doivent être punis. Maintenant, tu vas le laisser partir, je te l'ordonne. Je n'avais encore jamais vu un centurion romain prendre la défense d'un voleur. S'approprier un pain n'est pas un vol quand on a faim.
Calenus! Calenus, je pense que le centurion a raison. Un homme est excusable quand il a faim. Que nos nouveaux hôtes soient honorés. Bienvenue à Pompéi.
Voilà, nous sommes donc au pied du Vésuve à Pompéi, quelques heures, va-t-on dire, en 79 après Jésus-Christ. Donc avec vous, Dany Everbank-Pirard, on va visiter cette villa de Boscoreal. Et Boscoreal, c'est le nom actuel, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, j'imagine.
Non, pas du tout. Le Boscoreal est un nom qui date de l'époque des Bourbons, au fait. Hein. C'est le bois royal, c'est une région où les rois, les Bourbons de Naples allaient chasser. Mais à l'époque, effectivement, la région, vraisemblablement... De la villa s'appelait le Pagus Felix Suburbanus, qui veut dire un peu un hameau, si vous voulez, un petit village à côté de Pompéi, qui était quand même la ville-centre de la région.
Alors, on arrive devant cette villa. Qu'est-ce qu'on découvre? Elle est magnifique, cette villa?
Cette villa a une certaine allure. Elle est légèrement surélevée. On y accède par des escaliers. Il y a un fronton à colonnes. Oui, elle a de l'allure. Elle s'inscrit très, très bien dans le paysage. Nous sommes un peu en hauteur, donc elle domine la baie de Naples. Il y a le Vésuve à l'arrière, mais très verdoyant. Hein. Le paysage est quand même assez différent de la situation actuelle, bien sûr. Et ce qu'il y a d'intéressant, et ce que nous avons pu reconstituer à l'aide de recherches et toujours à partir du plan d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est de constater que dans la villa même, il y a deux zones bien distinctes et que ces deux zones sont distinctes à la fois par l'architecture mais aussi par le décor. Il y a des zones, je dirais, à fresque, les belles zones, les zones d'habitat du maître de maison, du dominus. Et effectivement, depuis l'entrée, vous circulez dans un vestibule entièrement décoré. Vous arrivez dans un péristyle lui aussi remarquablement décoré, avec un petit jardin au milieu. Et puis vous arrivez dans les grandes pièces d'accueil, dans la pièce d'apparat, le grand salon si vous voulez, les salles à manger, les salles à coucher également, les grandes chambres, bureaux sans doute aussi du maître de maison. Et toutes ces pièces sont luxueusement décorées effectivement. Mais alors, vous avez un second parcours, je dirais, à l'avant-plan, vers l'entrée de la villa, un second parcours qui, lui, est réservé aux activités serviles, aux activités de cuisine, aux activités de ceux qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, mais qui font quand même partie de la familia au sens large, c'est-à-dire les esclaves, les serviteurs, les métayers, etc. Voilà.
Alors, ce qui est remarquable donc, dans cette villa, c'est, vous l'avez dit, la richesse des fresques. Il y a quoi, 250 mètres, je crois, si on les allonge les unes à côté des autres.
C'est...
Alors, qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces fresques?
Alors, là aussi, un des grands intérêts de l'étude reconstituée de cette villa est de nous avoir fait découvrir les différentes ambiances de chacune de ces pièces que je viens d'évoquer, de décrire, parce que les thématiques changent d'une pièce à l'autre, les ambiances sonores, je dirais, et visuelles changent d'une pièce à l'autre. On entre donc par un vestibule assez sobre, encore, on arrive dans un péristyle qui évoque, lui, la victoire aux Jeux athlétiques, la palestre, le gymnase, qui était également, ne l'oublions pas, un lieu de philosophie et d'éducation. Après le péristyle, on arrive dans un grand salon où sont représentés des personnages grandeur nature, ce qui est une particularité tout à fait étonnante de cette époque, ce qu'on appelle les mégalographies, qui n'ont, pour ainsi dire, d'équivalent qu'à la Villa des Mystères de Pompéi, d'ailleurs. Et dans ce grand salon sont représentés des personnages qui semblent évoquer les grands monarques hellénistiques, vraisemblablement, ou d'autres personnages dont l'interprétation est assez difficile et on en discute encore beaucoup. Bref, c'est un salon représentant des personnages imposants, royaux, glorieux. Par contre, si l'on se dirige vers le triclinium, c'est-à-dire la salle à manger, là, nous observons un décor typique du deuxième style, donc du style de cette époque, milieu du premier siècle avant Jésus-Christ, un décor architectural, théâtral, qui nous enveloppe véritablement dans une ambiance là aussi grandiose, avec des trompe-l'œil, avec des ouvertures au-delà du mur, etc. C'est très intéressant. Par contre, si on se dirige vers la chambre à coucher, là on arrive dans un milieu tout à fait onirique, presque surréaliste, et je relève tout notamment une paroi assez célèbre, qui est le mur de fond de cette chambre, qui représente une grotte toute fraîche, un peu sombre, peuplée d'oiseaux qui gazouillent, avec une fontaine, de l'eau qui ruisselle, des petites statuettes votives éparses. La grotte est surplombée d'une treille verte d'où pendent de belles grappes jaunes. Donc là, le peintre a fait entrer la nature dans l'espace même de la maison. Une nature idéale, reposante, bienfaisante, avec des effets sonores, visuels, tactiles, presque gustatifs, qui sollicitent les cinq sens et qui ouvrent vers le repos.
Vous dites, c'est la villa, dans l'ouvrage, vous dites que c'est la villa des cinq sens. Hein. On fait appel aux cinq sens, parce que ces fresques, elles racontent des histoires. C'est pas seulement de la décoration. Histoire religieuse, histoire des grands personnages, vous l'avez évoqué, la vie quotidienne aussi.
La vie quotidienne transparaît peut-être davantage esquissée par la religiosité ambiante, d'une part des fresques, d'autre part par l'utilisation d'éléments ponctuels de décors qui sont ceux comme des instruments de musique par exemple, comme des instruments pour décorer une table. Il y a une énorme vasque qui contient des fruits par exemple, une vasque en verre, alors qu'à l'époque le verre est encore une découverte extrêmement précieuse, extrêmement récente, s'il s'agit bien de verre soufflé ou de verre moulé. Donc là, on en discute encore, mais on a en tout cas cette vasque luxueuse, pleine de fruits, très charnue, et puis aussi la vie quotidienne, qui est aussi la vie de la végétation par les guirlandes qui ont été suspendues. Donc la vie quotidienne apparaît en petites touches, je dirais, et ça c'est assez remarquable de voir comment les peintres, en quelques coup de pinceau, quelques traits de couleur et de lumière parviennent à recréer des effets naturalistes très, très, très sensibles.
Ouais. Alors en 79, donc, ce volcan que les Romains croyaient éteint se réveille, c'est l'éruption du Vésuve qui a probablement eu lieu en octobre, en novembre. C'est Pline le Jeune, qui est un sénateur et un avocat et auteur de lettres devenues célèbres, qui en sera le témoin oculaire, qui va raconter à ses contemporains et à l'histoire cette catastrophe. Alors on a beaucoup focalisé sur la destruction de Pompéi, d'Herculanum. On a une idée de l'ampleur des destructions autour du Vésuve.
Oui, bien sûr, on a une idée très précise par les fouilles elles-mêmes. Ouais. Donc c'est plusieurs villes autour du Vésuve, surtout sur la partie sud, que les cendres sont retombées, donc le nord et le Naples notamment ont été épargnés, même s'ils ont dû voir très, très nettement le nuage, on a les témoignages, et donc ça descend jusque Stabie, Plomptis, toute la région, oui, une très vaste région quand même.
Et cette région, elle devient quoi après l'éruption du Vésuve? Déserte
enfin... Eh bien, elle s'endort, oui, ouais. les cendres la recouvrent, il faudra vraiment la végétation finalement reprendra ses droits progressivement, et c'est pas pour rien que Bosco Reale, c'est bois, hein, le bois de chasse. Donc elle est relativement peu habitée, peu reconstruite, du moins la région même de Pompéi et d'Herculanum et de Bosco Reale. Oui.
Alors quand est-ce qu'on va commencer à s'intéresser à ce site qui a été détruit?
Les premières fouilles première fouille de hasard un peu date du milieu du XVIIIe siècle. En 1738, on redécouvre en creusant des galeries, en creusant, on redécouvre Herculanum. Et les rois de Naples, qui sont évidemment les Bourbons encore à l'époque, les rois de Naples vont s'y intéresser, vont accentuer ces fouilles. Et dès 1748, apparaît Pompéi, qui est plus facile à fouiller qu'Herculanum d'ailleurs, puisque ce sont des cendres, des lapilli qui se sont déposées. Et donc là, on va creuser de plus en plus. Et tout à coup, effectivement, cette ville va surgir de terre, entre le 18e et le 19e siècle. Continue encore de surgir de terre.
Ça veut dire que jusque-là, jusqu'à ces fouilles avec les rois de Naples, l'image populaire de cette catastrophe n'était pas aussi importante que celle que l'on a aujourd'hui. On avait les populations connaissaient cette histoire.
Elles le connaissaient, je dirais, sans doute par les textes. C'est vrai que le texte de Pline est resté tout à fait célèbre, mais on avait vraiment oublié. On avait oublié les trésors qui restaient sous la lave et sous les cendres. Oui, on les avait oubliés.
On va voir avec vous que les méthodes de fouilles ont bien changé depuis aussi et que la villa de Bosco Real a sans doute un peu souffert également de ces fouilles qui ont été assez intenses, notamment au cours du 19e siècle.
Laurent de Hausset, un jour dans l'histoire.
Ne crains rien, Sabinus. Le premier enfant est toujours le plus dur pour une mère, mais Julia est jeune et en bonne santé. Vous en aurez beaucoup d'autres, si les dieux le veulent bien.
Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Qu'avons-nous fait aux dieux ?
Au secours !
Le docu-fiction ici, les derniers jours de Pompéi. Nous sommes avec Annie Verbanck-Pierrard qui a co-dirigé donc cet ouvrage avec Alix Barbet, la villa romaine de Bosco Real et ses fresques. On va en reparler bien sûr. Mais on le disait, Annie, les méthodes de fouilles qui ont cours au 19e siècle et au début du 20e ne sont pas du tout celles d'aujourd'hui. Est-ce que la villa en a pâti de ces méthodes ?
Bien entendu. Voilà, vous mettez l'accent sur un des gros problèmes de Pompéi. Les fouilles qui ont été effectuées, notamment au XIXe siècle, et surtout dans la région de Pompéi, plus encore qu'à Pompéi même, ont permis de faire perdre à l'Italie, je dirais, ses trésors. Et le cas de la villa est tout à fait symptomatique, justement. Elle a été fouillée par un certain Vincenzo de Prisco, qui s'était déjà fait remarquer en pillant une autre villa des environs et en pillant cette villa d'un trésor d'argenterie assez énorme qui était déjà allé aux Rothschild, les Rothschild eux-mêmes l'ayant donné au Louvre, c'est le fameux trésor d'argenterie de Bosco Real du Louvre. Donc il avait déjà mis la main sur un fameux trésor et ça avait déjà fait scandale au fait en Italie. Peu importe, Vincenzo de Prisco continue cherchant d'autres trésors et ce trésor-ci qu'il trouvera dans une autre villa, donc la villa de Fannius, Sinistor, est un trésor de fresques. Alors il va rééditer sa bonne affaire et va décider de déposer les fresques, c'est-à-dire de les retirer du mur, de les encadrer de bois. Et donc il va retirer plus de 70 panneaux ainsi, des mosaïques, des objets, des outils, etc. Et il va décider de les vendre aux grandes dames des archéologues italiens et des services muséaux italiens. N'oublions pas que l'Italie est évidemment encore un pays très jeune, puisque le Risorgimento n'a que quelques décennies. Et donc l'Italie est encore en train de se constituer, ces grands musées, de constituer des fonctions d'instruction publique, de musées, etc. Et parmi les grands fonctionnaires, je dirais, de l'État italien, il y a Felice Barnabei qui va se démener pour effectivement empêcher que ces fresques ne quittent l'Italie. Il va rédiger un rapport dont je parlais tout à l'heure, avec un plan sur lequel nous travaillons, un rapport qui est notre source d'information majeure. C'est un personnage extrêmement intéressant puisqu'il est directeur des beaux arts, ils fondent des musées des thermes, le musée de la Villa Giulia, tout ça est en passe d'être créé. Et donc, il faut se remettre aussi dans ce 19e siècle, dans cette histoire-là, fin 19e, début 20e. Malgré tout, les dissensions aussi entre Rome et Naples, entre Rome et le Sud, qui sont des problèmes récurrents dans l'histoire de l'Italie, font que De Prisco profitera de quelques problématiques légales pour, malgré tout, grâce au Canessa, antiquaire de de Naples, faire sortir ces panneaux et les vendre à Paris. Il ne restera à Naples que quelques panneaux, 8 panneaux à peu près au musée de Naples, comme dédommagement.
On reviendra sur cette vente, parce qu'elle est importante pour le musée aujourd'hui royal de Marimont, mais ça veut dire qu'à l'époque, tout le monde peut fouiller
Vincenzo de Prisco a entrepris ses fouilles en tant que privé sur un terrain privé qu'il a acheté et qu'il a fouillé. Ce scandale, hein, c'est vrai, ça va faire scandale à nouveau, un deuxième scandale, d'ailleurs aboutira à une législation plus stricte, plus précise, plus déterminante que les législations antérieures qui laissaient malgré tout, qui prêtaient...
Et ça veut dire aussi que chaque nation est un peu égoïste, enfin pense à ses propres collections et bon, peu importe la valeur pour le pays d'où elles sont trouvées.
Mais c'est-à-dire que maintenant, ce genre de situation est absolument impossible, bien sûr. Une villa de Pompéi ne peut plus être débitée en tranches et vendue à l'encan aux enchères à Paris. Ça, c'est effectivement pour nous, heureusement, terminé parce que les législations, à cause, je dirais, de ces scandales, se sont mises en place. Mais à cette époque-là, en début de siècle, effectivement, voilà, il y a encore des possibilités extrêmes. Hein. C'est vraiment la dernière limite, d'où l'importance de cette vente, parce qu'on se doute bien, tous ceux qui collectionnent, tous les musées se doutent bien que ce genre d'occasion ne se représentera pas.
La vente du 8 juin 1903 à Paris, donc la vente des fresques de cette villa romaine de Bosco Reale, on y arrive là, avec Annie Verbank-Pierrat.
Des petits cailloux. C'est léger et ça flotte. Allez, quoi, ne me dis pas que tu as peur de simples cailloux. Nous sommes des gladiateurs. Et toi, viens m'aider.
Un jour dans l'histoire.
La vente donc du 8 juin 1903 à Paris, Annie Verbank-Pierrat, avant de pousser les portes de la galerie où elle a eu lieu, il faut quand même aussi bien rappeler qu'il y a une véritable boscomanie qui a cours à ce moment-là.
C'est vrai que la vente fera grand bruit. Il y avait déjà eu cette vente de la grande argenterie, enfin cette diffusion, je dirais, de la grande argenterie de la précédente villa. Donc Bosco Reale est connue et c'est vrai qu'elle va attirer les convoitises de collectionneurs qui vont se présenter à Paris, qui vont être présents. Le catalogue est bien diffusé, il est d'ailleurs remarquable, décoré d'aquarelles, etc. Et ça fait envie, ça c'est certain.
Alors, vous la décrivez, vous la qualifiée de désastreuse, hein, cette vente de 1903 dans l'ouvrage. Alors pour comprendre comment les fresques de cette villa se sont retrouvées à Marimont, il faut inviter donc ici Raoul Varroquet, le fondateur du musée royal de Marimont. Qui est-il, hein ? Il est né en 1870, il est mort en 1917. C'est qui ce Raoul Varroquet ?
Raoul Varroquet est évidemment une grande figure de notre histoire, bien sûr, puisque en tant que maître charbonnier, dernier représentant d'une dynastie justement de patrons charbonniers dans le Hainaut, il est à la tête d'une fortune considérable dans ces années 1900 et il va en consacrer une partie à la constitution d'une collection tout à fait remarquable qui possède différents angles, différents axes, Extrême-Orient, histoire régionale, porcelaine, livres précieux bien sûr, et antiquités classiques, collection d'antiquités classiques pour laquelle il sera aidé par son ami Franz Cumont, qui est à l'époque au cinquantenaire, conservateur du cinquantenaire.
Et donc à l'époque, il réside dans cette prestigieuse propriété de Marimont près de Morlanway. Donc c'est un grand collectionneur. Il y a l'annonce donc de la vente des fresques, le 8 juin 1903. Vous l'avez dit, ça fait grand bruit. Il est très gourmand et il va avoir, est-ce qu'il a de la chance ou simplement beaucoup d'argent et beaucoup de goût ?
Il a, je crois, à la fois beaucoup d'argent, beaucoup de goût et surtout, j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, il a surtout l'envie de constituer un musée public. Un musée qui manquait encore à la Belgique en ces années 1900. N'oublions pas, nous n'avons pas de grand musée d'antiquité. Le cinquantenaire est encore en train de se constituer comme musée d'antiquité. Le pavillon des antiques n'ouvrira qu'en 1905. Et Marimont, là aussi, servira, je dirais, de deuxième deuxième musée d'antiquité de Belgique. Waroke en a bien conscience, donc il s'agit de donner à la Belgique, comme disent les textes de l'époque, une source de rêve et de beauté que doit donner au grand public la contemplation et l'étude des antiques. Et c'est donc cette démarche-là qui est une démarche, au fait, orientée vers le bien public, très caractéristique de cette époque, qui fait qu'on peut peut-être, comme vous l'aviez dit, le malheur des uns va, dans ce cas, faire le bonheur de certains musées, des musées qui sont non plus privés, des collections qui ne sont pas privées, mais qui vont être destinées à l'éducation de la nation Belgique, si je puis ainsi m'exprimer.
Il sera le troisième investisseur après le Metropolitan de New York et le Louvre. On imagine qu'acheminer ces fresques vers Marimont, c'est une sacrée aventure quand même.
Oui, il a d'ailleurs déjà fallu les acheminer donc de Naples, de Naples jusqu'à Paris. Et puis là, elles sont exposées. Et puis là, elles viendront en train. Elles viendront en train de Paris jusqu'à la gare de Morlanwy. Et on a des traces, disons, que oui, protégez bien les fresques sur le wagon, qu'elles ne s'abîment pas trop.
Et aujourd'hui, on peut toujours les voir, bien sûr, à Marimont.
Ah, bien sûr, je vous y invite.
Avec reconstitution de la villa, etc.
Sûr, bien sûr.
Est-ce que, comme pour les frises du Parthénon, l'Italie pourrait réclamer ces fresques?
Vraisemblablement pas, parce qu'effectivement, je vous l'ai dit, elles ont fait l'objet d'une vente qui a été cautionnée et autorisée à l'époque par l'État italien. Contestée, certes, mais légalement, ils n'ont pas pu arrêter le vendeur. Donc, je ne pense pas que l'État italien puisse redemander... Il y aurait une légitimité, j'en conviens, hein, mais je ne crois pas que l'État italien puisse redemander, sur une base légale du moins, de réunir à nouveau toutes ces fresques qui sont la fierté de nombreux musées qui les ont entretenus, récemment restaurés d'ailleurs aussi avec le plus grand soin, et qui, je dirais, font quand même rejaillir la célébrité et les faces de Pompéi partout dans le monde, comme vous l'avez dit, jusqu'aux USA par exemple.
Et aujourd'hui, si l'on se rend donc sur ce site de Bosco Reale, est-ce que l'on peut encore voir quelque chose?
Non, le site a été entièrement recomblé très peu après la fouille en 1902. Le site est recouvert et il appartient encore à un particulier, mais bénéficie d'une relative protection. Donc ce sont des arbres, il y a des oliviers, des plantations d'oliviers, donc il les retourne à sa vocation première agricole, je dirais, pour l'instant. Les derniers vestiges de la villa sont toujours dans le sol pompéien.
Est-ce que ces fresques, notamment celles qui sont conservées au Musée Royal de Marimont, ont encore beaucoup de choses à nous apprendre ?
Oui, à tout point de vue. À tout point de vue, je crois qu'on peut les aborder à la fois en tant qu'historien de la peinture, historien des fresques, par exemple. Hein. C'est une technique extrêmement bien mise au point. Hein. Les Romains ont été les maîtres de la fresque. Je le disais tout à l'heure, la qualité de la peinture est tout à fait remarquable. Et la technique de la fresque nécessite des compétences particulières. Hein. C'est pas, il faut une préparation du mur, une humidification du mur, etc. Je signale d'ailleurs qu'une reconstitution de la technique de fresque a été entreprise récemment au musée de Toulouse pour une très belle exposition où nous avons d'ailleurs prêté la villa de Bosco Reale et qui est elle-même importante, et ces techniques sont mises en œuvre par des artistes contemporains.
Et on a l'occasion donc d'aller les admirer au musée royal de Marimont, et comme préambule, on peut donc s'offrir notamment ce très bel ouvrage, hein, la villa romaine de Bosco Reale et ses fresques, qui est paru aux éditions Errance, Musée Royal de Marimont, sous la direction d'Alix Barbet et Annie Verbank-Pierrard, qui était avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci de votre invitation. Merci beaucoup.
Un jour dans l'histoire.